Ocapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 10h05 à 11h sur Radio Ocapi.
En RDC, l'accès aux soins de santé de qualité pour les enfants âgés de 0 à 15 ans pose énormément de problèmes. Faute d'équipement, de matériel médical et de personnel bien formé, de nombreux enfants admis en hospitalisation ne reçoivent pas un traitement adéquat. C'est le cas de l'hôpital général, de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et une de rares structures médicales de la RDC exclusivement réservée aux soins des enfants, mais qui est parfois confrontée aux difficultés d'examen de laboratoire, d'imagerie médicale, des intrants, des médicaments, sang et oxygène, ce qui constitue un obstacle majeur pour mener à bien les interventions chirurgicales. Alors, comment améliorer la prise en charge médicale dans les secteurs de la pédiatrie en RDC? Je dis en sommaire de ce magazine, docteur Catherine Akele, directrice de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, notre invitée. Je rappelle le numéro des contacts, les 099 706 et 63 94. Si vous voulez intervenir, vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net. Nous disons merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook Ocapi Service. Docteur Catherine Akele, vous êtes directrice de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Encore une fois, merci d'être venue dans ce magazine au Capi Service. Alors, docteur, si, parlons de la pédiatrie, du secteur de la pédiatrie en RDC. C'est vrai qu'il y a des problèmes, on va les évoquer. Mais dites-nous d'entrée de jeu, quelles sont généralement les maladies courantes qui concernent les enfants ici en RDC et surtout des maladies qui font que les enfants soient admis à l'hôpital?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, en pédiatrie, dans notre milieu, les maladies les plus fréquentes qu'on rencontre chez les enfants, c'est d'abord le paludisme.
Donc la malaria.
La malaria, oui. Voilà. C'est d'abord la malaria. Vient ensuite les maladies respiratoires et les maladies diarrhéiques. Donc, ce sont ces trois maladies, principalement, qui tuent les enfants. Et pour lesquels les enfants consultent le plus souvent dans nos hôpitaux en RDC.
Vous avez parlé de la malaria, de maladies diarrhéiques, de la diarrhée, mais également de maladies respiratoires. Oui. Alors, généralement, comment s'est fait la prise en charge? Comment doit se faire de façon adéquate, de façon convenable, la prise en charge de ces différentes maladies, c'est-à-dire la malaria, les maladies respiratoires ou encore la diarrhée?
Alors, en premier lieu, c'est d'abord le personnel.
Oui.
Il faut avoir un personnel bien formé en pédiatrie, aussi bien un médecin qu'infirmier, que ceux qui travaillent au laboratoire en imagerie. Et ces personnes doivent être formées à bien détecter la maladie, en écoutant d'abord bien les parents, parce que c'est les parents qui donnent les plaintes. Et à partir de ces plaintes-là, on examine l'enfant et on pose le diagnostic. Alors, le diagnostic est posé d'abord rien qu'après l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la maladie et l'examen que nous faisons aux enfants. Mais souvent, on a besoin d'examens paracliniques, comme nous disons, c'est-à-dire du laboratoire en premier lieu. Parce que, bon, la malaria, il faut faire la goutte épaisse,
oui,
ou les tests rapides, pour savoir qu'il y a la malaria. Bon, quand c'est une diarrhée, on voit qu'il y a la diarrhée, l'enfant vomit, mais on peut avoir besoin d'examens des selles, notamment, pour savoir à quoi cela est dû, et puis des examens de sang, certains examens, pour voir quelles sont les conséquences de cette diarrhée et de ce vomissement chez l'enfant. Pour les maladies respiratoires, c'est principalement l'examen clinique qui va aider à poser le diagnostic, mais on a aussi besoin souvent d'une radiographie pour voir au niveau des poumons est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent nous faire dire que c'est telle ou telle pathologie.
Voilà, donc vous avez parlé de la diarrhée, de la malaria, de maladies respiratoires, et vous avez également dit pour arriver à donner des soins adéquats aux enfants, il faut du personnel bien formé. Donc vous avez parlé de médecins, vous avez parlé des infirmières, de techniciens, de laboratoires. Mais qu'est-ce qui fait que en RDC, généralement dans les hôpitaux, il se pose tous ces problèmes d'accès à des très bons soins pour les enfants? Il y a des enfants qui meurent de la diarrhée, des enfants qui meurent de la malaria, même de maladies respiratoires.
Bon, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes parce que les enfants qui sont malades, souvent, ils ne viennent pas directement dans les hôpitaux.
Oui.
Ils commencent d'abord par des petits centres où il y a des gens qui ne sont pas toujours bien formés pour la prise en charge pédiatrique. Et souvent, ils traînent là-bas et quand on voit que ça ne va pas, on envoie dans les grands hôpitaux. Bon, quand ils envoient dans les grands hôpitaux trop en retard, là, je crois que même Dieu ne peut pas toujours faire des miracles dans ces cas-là. Mais quand on a des gens bien formés dans des services de pédiatrie, déjà, on peut, dès le premier coup d'œil, voir que cet enfant-là est déshydraté, c'est un enfant qui est en coma, qui convulse, et on peut mettre le traitement qu'il faut. On doit avoir des infirmiers déjà qui doivent arriver à bien trouver les voies veineuses. Qu'un enfant qui vient dans un état grave, une des premières choses à faire, c'est de trouver une voie veineuse, surtout s'il est déshydraté. Et les veines des enfants, ce n'est pas évident. Il faut être bien formé et être habitué à poser une voie veineuse chez les enfants. Et après, le traitement. Le traitement, c'est les enfants. Déjà, il faut connaître quel médicament donner.
Oui.
Parce que tous les médicaments ne sont pas adéquats chez les enfants. Il faut en connaître les doses, par quelle voie les administrer, pendant combien de temps. Et donc, tout ça là, ça fait que quand les gens sont bien formés, souvent même quand les enfants arrivent un peu en retard, si on peut dire, on arrive quand même à les sauver.
Alors, si faut prendre le cas de l'hôpital pédiatrique de Calais-Bélembe, dont vous êtes la directrice, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés pour assurer une meilleure prise en charge des enfants?
Alors, par rapport au personnel, c'est vrai qu'on a un personnel qualifié. Parce que nous ne faisons que la pédiatrie et on a des formations régulièrement pour remettre un peu à niveau les gens. Mais c'est vrai qu'il faut aussi toujours évaluer le personnel, faire un suivi de ce qu'ils font pour corriger des petites failles quand il y en a. On a des protocoles, on a mis en place certains protocoles parce que les gens doivent pouvoir suivre une certaine façon de faire. Pour donner le traitement, pour poser le diagnostic, etc. Ça va. Alors, le problème qui se pose souvent chez nous, c'est un problème d'abord d'infrastructure. Le problème d'infrastructure, bon, déjà, il faut avoir des locaux adéquats pour mettre les enfants, pour les examiner, pour les hospitaliser.
Et vous avez, pour parler d'hospitalisation, c'est d'une capacité de combien de lits et on peut hospitaliser jusqu'à combien?
Bon, c'est un hôpital qui a une capacité de 150 lits, mais
oui.
Nous travaillons maintenant sur 137 lits.
Ah, et vous recevez des enfants qui viennent de tous les pays, c'est pas seulement Kinshasa?
Oui, on reçoit des enfants qui viennent de tout le pays, même des pays du Congo-Brazza, par exemple, de l'Angola. On en a déjà reçu pas mal. Oui.
Vous avez parlé donc du personnel qui est bien formé, que vous recyclez de temps en temps, mais pour qui c'est qu'il y a l'équipement aussi. Vous êtes bien, vous avez tout ce qu'il faut pour la radiographie, tout ce qu'il faut pour l'échographie, tout ce qu'il faut pour mener à bien les examens, surtout par exemple les interventions chirurgicales.
Bon, on n'a pas tout ce qu'il faut. Nous avons un petit minimum,
oui.
Si je peux dire. Il faut dire que le gouvernement a fait des efforts de nous fournir en matériel. On a eu des partenaires aussi, notamment la Croix-Rouge, surtout la Croix-Rouge de Belgique. Bon, malheureusement, ils sont partis. Depuis 2012 maintenant, nous travaillons sur fonds propres. Et donc ce matériel-là qui a été donné à l'hôpital, ça fait quand même quelques années. Il y en a qui sont tombés en panne et c'est du matériel qui coûte cher. Un appareil de radio, par exemple, ça coûte pas moins de 20 000 dollars.
Oui.
Et pour le moment, notre appareil de radio est en panne.
Ça fait combien de temps que l'appareil est en panne?
Ça doit faire à peu près 2 mois maintenant que l'appareil est en panne. On a essayé de réparer, mais...
Dans le service de radiologie ne fonctionne pas dans votre institution hospitalière.
Nous faisons encore les échographies,
échographies.
Depuis 2 mois maintenant, le service de radiologie ne fonctionne pas parce que l'appareil est en panne. Alors, il y a par rapport aux soins des enfants aussi, parce que les soins des enfants, il y a du matériel pour les soins même,
oui.
Mais aussi du matériel pour la surveillance. Pour les soins, c'est les soins infirmiers, mais aussi les soins médicaux. Pour la surveillance, par exemple, en service de néonatologie, dans mon service, nous n'avons qu'un appareil, comment on appelle ça ? On a un moniteur.
Oui.
On a juste un moniteur pour, on a 10 places pour le moment. Et ce moniteur-là, normalement, ça sert pour les enfants qui sont gravement malades, à suivre comment bat leur cœur, comment ils respirent, comment l'oxygène passe au niveau de leur sang.
Oui, on se rend compte que vous avez des problèmes, hein, docteur Akeli, au niveau de l'hôpital de pédiatrie de Kalembelem. Mais d'ailleurs, avant de recevoir des auditeurs qui sont déjà en ligne, vous êtes en train de célébrer les 10 ans du service de chirurgie, hein, de l'hôpital pédiatrique. Rapidement, comment ça se passe déjà par rapport à l'organisation, par rapport aux problèmes que vous avez? Oui, rapidement, oui.
Alors, nous fêtons les 10 ans de notre service de chirurgie.
Oui.
Et à cette occasion, nous avons voulu faire une action humanitaire, traiter des enfants qui ont des problèmes chirurgicaux, des problèmes courants, pas de très graves problèmes, mais des problèmes courants, et pour lesquels ils n'ont pas eu les moyens pour se faire opérer.
Oui.
Alors, nous avons fait appel à des donateurs, parce que nous avons du personnel, on a l'expertise, mais on n'a pas les moyens. Parce qu'il faut des médicaments, il faut des examens à faire, radio, examens de labo et tout ça. Il faut de l'oxygène aussi. Et donc nous avons fait appel à certains donateurs. Il y en a déjà qui ont accepté de nous fournir en médicaments ou en certaines choses. Alors on a commencé hier les consultations. Il y avait déjà beaucoup, parce que nous comptons opérer 100 enfants.
Oui.
Hier déjà, on est arrivé à une cinquantaine d'enfants. Donc on croit que le problème est quand même assez sérieux et on n'arrivera peut-être pas à prendre tous ces enfants-là.
On va revenir à ça, docteur Akeli, avant de nous séparer. Vous allez lancer un appel à tous ceux qui veulent bien aider cette opération de bienfaisance qu'a lancée depuis hier l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe pour aider beaucoup d'enfants qui sont retenus là-bas simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire opérer. Nous allons accueillir des auditeurs qui sont en ligne. Je vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, sur le magazine Okapi Service, nous, le sujet, c'est comment améliorer la prise en charge médicale en pédiatrie. Nous avons pour invité Dr Catherine Akeli, directrice de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, composez les 099 71 663 94.
Les Nations Unies, l'ambassade de l'Afrique du Sud et la Fondation Nelson Mandela célèbrent ce mercredi 18 juillet la journée internationale Nelson Mandela. Cette année, la journée coïncide avec les 5 conteneurs du prix Nobel de la paix. Le lancement des activités aura lieu à l'hôpital Saint-Joseph de Limété à Kinshasa. Faites comme Mandela, observez 67 minutes de solidarité et des actions caritatives envers votre entourage et d'autres personnes que vous pouvez croiser sur votre chemin ce mercredi. La journée internationale Nelson Mandela, un rendez-vous de bienfaisance et de volontarisme.
Mazarin nous appelle de Kadanga. Bonjour Mazarin.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui Mazarin.
Oui. Oui, ce Mazarin à partir de la province du Kasaï central. J'ai une petite intervention par rapport au sujet du jour. Je voudrais d'abord demander à madame l'invité. Si elle peut effectivement nous dire qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire, de mettre en place comme mécanisme de pouvoir protéger ou soit de mettre la prise en charge efficace vis-à-vis de ces enfants, puisque nous savons tous que la province du Kasaï occidental, bien sûr, démembrée, où je me retrouve présentement, nous avons passé à des moments très difficiles où il y a des enfants malnutris, il y a des enfants qui sont tombés malades suite au mouvement insurrectionnel Kamona Nsapu qui a laissé d'indicibles souffrances à la population. Alors, seulement, cette opération s'effectue à Kinshasa. Ici, à Kananga, il y a des gens, il y a des enfants qui n'ont pas assez de possibilités pour avoir le transport d'arriver là-bas à Kinshasa. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour que cette population-ci ne puisse pas se sentir vraiment négligée et éloignée de toute de tous les avantages que le gouvernement est en train d'offrir à d'autres enfants, puisque quand on dit que cet hôpital se trouve actuellement à Kinshasa, c'est comme si seuls les enfants qui sont à Kinshasa peuvent être bénéficiaires de ces avantages, alors que la République démocratique du Congo est vraiment vaste et nous savons que toute cette République est vraiment déchirée par des guerres, ça et là, et ces guerres sont en train de laisser les enfants en état de souffrance.
Oui.
Il y a certains parents qui n'ont pas assez de possibilités pour entrer dans des grands hôpitaux et puis faire soigner leurs enfants.
Mazarin, on a compris votre question, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que notre invité n'est pas membre du gouvernement. En fait, ici, on a choisi Dr Akiel, et c'est parce qu'elle est directrice de l'hôpital pédiatrique du Kalembelembe. Mais elle pourra répondre à votre question pour dire de manière générale qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on arrive à assurer une meilleure prise en charge médicale dans tous les hôpitaux de la RDC. Merci Mazarin.
Oui,
allez-y rapidement, Mazarin, vous avez déjà pris beaucoup de temps, oui.
Okay. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour alors demander à madame l'invitée si elle peut nous dire qu'avec les jours à venir, cet hôpital sera encore érigé dans d'autres provinces de la République.
Merci, Mazarin, depuis Kananga, Kindou, Esoko et Esokoa. Vous êtes en ligne, bonjour Esokoa.
Bonjour monsieur, bonjour Marcel, bonjour aussi à l'invité. Marcel, je serai bref pour laisser le temps aux autres.
Oui.
Je voulais demander à la madame là-bas pourquoi les enfants sont toujours victimes, les premières victimes donc de la maladie. Pourquoi les enfants toujours entre les deux saisons là, saison sèche et saison des pluies. Parce que moi je connais un endroit où on appelle un village, on appelle les Kambelembele, parce qu'il y a Lembelembe et Kambelembele, à la mort du fleuve du Congo.
Oui.
Là, il n'y a pas vraiment des hôpitaux nécessaires. Hein? Il y a des hôpitaux, mais les infirmiers qui sont là-bas, ils ne sont pas vraiment des pédiatres. Et chaque fois, ici, il faut arriver là-bas, vous allez trouver des enfants qui sont malades, et chaque fois, il y a toujours des morts là-bas. Je ne sais pas si, pourquoi si le gouvernement aussi peut, parce que vous avez aussi interdit de ne pas dire le gouvernement, mais il faut le dire, il n'y a pas vraiment de médecins qui sont formés pour soigner les malades et surtout à ce qui concerne aussi les enfants. C'est grave, il faut arriver là-bas. Et je voulais demander à la madame pourquoi les hôpitaux privés sont aujourd'hui nécessaires par rapport à la référence. Pourquoi les différences comme ça? Même si à Kindu, il faut arriver donc aux hôpitaux qui sont privés, on pourrait trouver des enfants sont nombreux là-bas pour être soignés par rapport à la référence. Bon, pourquoi c'est mal comme ça? Est-ce que la référence aussi, il n'y a pas encore de médecins qui sont bien formés là-bas pour que les parents se dirigent toujours dans des hôpitaux différents, dans des hôpitaux privés? Voilà, c'est des questions que je voulais poser à la madame, de nous donner un peu de lumière. Comment faire avec les enfants? Parce que nous sommes vraiment trop dérangés.
Merci beaucoup. Je voudrais qu'on se comprenne bien. J'ai dit, madame ne fait pas partie du gouvernement, mais en tant que spécialiste en ce qui concerne la pédiatrie, elle pourra donner des orientations pour que le gouvernement comprenne qu'est-ce qui doit être fait pour assurer une meilleure prise en charge médicale en pédiatrie. Merci, Esokoa, d'avoir appelé de Kindu. Amboujimaï, David est en ligne. Bonjour, David.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour Madame, bonjour à tous. Alors, d'abord, je commence par un petit point que moi aussi je puis rencontrer.
Oui.
Ici, précisément en Bujuma, ici, il n'y a pas d'hôpitaux pédiatriques. Oui. Donc, lorsque l'enfant souffre, par exemple, la tuberculose, par exemple, ses parents les amènent tout simplement dans une pharmacie, par exemple, pour prendre des médicaments. Et alors, ces médicaments ne sont pas appropriés pour lui, c'est pour tout le monde. Maintenant, parce que la maladie essaie un peu de s'aggraver, on les ramène maintenant dans un centre ou dans un hôpital, par exemple. Maintenant, pour établir la différence, ici, dans des hôpitaux qui ne sont pas pédiatriques, précisément, ils donnent du vaccin Donc, ils diminuent la quantité du vaccin pour établir la différence entre les enfants et les adultes. Donc, ils diminuent la quantité tout simplement du vaccin. Alors, la question que je voulais poser à madame, c'est de savoir que est-ce qu'un pédiatre peut s'occuper de la circoncision de l'enfant? Est-ce que il est à mesure d'assurer la circoncision d'un enfant? Et la deuxième question est de savoir quel est l'impact reçu lorsque l'enfant reçoit les soins qui ne lui est pas approprié, donc les soins des adultes alors qu'il le reçoit. Quel impact est-ce?
Quelles peuvent être les conséquences? Merci David d'avoir appelé de Mujimaï. J'en profite pour lire rapidement quelques réactions nous parvenues sur la page Facebook. Au Capi Service, Costal Tangofor nous écrit ceci. Bien sûr, le pays est démuni de son budget, mais les autorités sanitaires doivent s'impliquer aux appels de fonds dans les pays et aides étrangères pour financer certains hôpitaux de la RDC afin que les patients touchés bénéficient de soins de qualité. C'est Costal Luboya depuis l'université du Kananga voilà. Et puis il y a cette réaction aussi de Félicien Kachimba. Je viens aussi contribuer pour ces sujets qui touchent à la vie humaine en tant qu'infirmier. L'amélioration des conditions de prise en charge de cas des enfants de 0 à 15 ans dépend de la volonté du gouvernement, car c'est l'État congolais qui est censé faire une subvention directe ou indirecte avec ses partenaires en cette matière. Et ça, c'est Félicien Kachimba qui nous écrit. Il n'a pas précisé d'où il écrit. C'est une réaction également d'Ambroise qui nous écrit ceci. C'est vrai, c'est difficile de maîtriser ce secteur pour le moment vu la crise qui entoure la RDC. Il n'y aura pas de moyens conséquents pour financer ce secteur. Pour moi, les gouvernements pouvaient chercher des partenaires internationaux comme UNICEF. Et également, une autre réaction sur notre page Facebook, c'est de Mouyindour et Justin. Pour améliorer la prise en charge médicale dans les secteurs de la pédiatrie, je pense qu'il faut une forte implication du ministère de la Santé publique dans la dotation de divers équipements. Aussi, je pense que les structures sanitaires devraient organiser plus de formations de son personnel, surtout dans le secteur de la pédiatrie, pour voir comment maîtriser ces problèmes qui gangrènent notre génération future. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de réactions sur la page Facebook au Capi Service, mais on ne pourra pas lire toutes ces réactions. Docteur Raquel et Catherine, vous avez suivi, direction sur la page Facebook, également des auditeurs qui sont passés en direct sur nos antennes. Ils ont évoqué tout de même l'implication du gouvernement pour améliorer la prise en charge médicale dans le secteur de la pédiatrie en RDC.
Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions. La première chose que je vais dire, c'est que notre hôpital, c'est bien un hôpital de l'État. C'est un hôpital de l'État congolais. Et l'État congolais, comme vous dites, je ne peux pas parler pour tout le pays. Je vais parler pour ce que moi je sais, ce que moi je vis. Ici, à Kinshasa, les hôpitaux publics de l'État sont bien supervisés. L'État fait beaucoup de choses. L'État nous donne régulièrement des médicaments. Et quand ils ont du matériel, ils donnent aussi du matériel dans les hôpitaux. Il y a toute une organisation de supervision où, au niveau de la zone de santé, au niveau de la division provinciale de la santé notamment, ils envoient des superviseurs pour voir comment nous travaillons, si les protocoles pour la prise en charge de ces trois maladies qui tuent le plus des enfants ici sont suivis. Et maintenant, quitte à nous aussi qui travaillons à suivre les directives qui nous sont données. Quand on dit qu'il faut demander aux parents aux mamans d'allaiter les enfants jusqu'à l'âge de 6 mois au moins, il faut que les parents suivent aussi. Ça, ce sont les directives du pays. Mais quand les gens ne suivent pas, bon, là, ça devient autre chose aussi.
Une autre question de Soko qui a parlé des enfants, des endroits où les soins, il n'y a pas de pédiatre. Est-ce que c'est normal que les soins soient assurés par le personnel médical qui est sur place. Il faut il faut tout le temps qu'il y ait un pédiatre. Et puis il y a également David qui a cherché à savoir si un pédiatre aussi peut faire la circoncision d'un enfant. Et puis qu'est-ce qui peut arriver lorsque un enfant n'est pas soigné selon l'âge qu'il a, c'est-à-dire que on n'essaie pas de respecter. J'ai compris ça de cette manière-là, la dose de médicaments qu'il faut tout et tout. Hein, qu'est-ce qui peut se passer?
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de pédiatres pour le pays, je ne connais pas les chiffres en tête, mais les médecins, dans leur formation, ont aussi une formation pour les soins pédiatriques. Donc, un médecin généraliste bien formé peut prendre en charge au moins les maladies basiques des enfants. C'est vrai que quand on entre dans des maladies trop compliquées, trop spécialisées, il peut au moins déblayer les choses et essayer de transférer ou essayer de minimiser les choses pour que ça ne s'aggrave pas plus. Les infirmiers aussi, il y a beaucoup d'infirmiers qui sont habitués, qui ont travaillé avec des médecins et qui sont formés pour la prise en charge des enfants. Donc là, dans les endroits où il n'y a pas de pédiatre, il y a les autres professionnels de santé qui peuvent aussi prendre en charge les maladies des enfants. Bon, si un pédiatre peut faire une circoncision, comme je dis, un pédiatre, c'est d'abord un médecin généraliste formé, donc qui a été formé aussi en chirurgie. Maintenant, c'est le problème de la pratique. Moi, je n'ai jamais pratiqué la circoncision, je ne veux pas aller me hasarder à le faire. Mais il y a d'autres médecins pédiatres qui ont travaillé d'abord comme médecin généraliste ou dans un service de chirurgie, et qui sont tout à fait capables de faire une circoncision. Donc ça peut arriver. Alors, quelles sont les conséquences quand on ne donne pas le traitement approprié? Les conséquences, c'est quoi? C'est que, ou bien, l'enfant ne sera pas soigné, parce qu'on n'a pas donné le traitement qu'il faut, ou les doses qu'il faut. Mais le danger aussi, c'est que l'enfant peut être intoxiqué. Si on donne des doses, si on surdose les médicaments, l'enfant peut être intoxiqué et ça peut aller jusqu'au décès de l'enfant.
Voilà, docteur Catherine Akil, on va poursuivre avec d'autres auditeurs en ligne. Vidas qui nous appelle du Kananga et Freddy qui est en Bougimaï. Vidas, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio Catherine.
Donc, on vous écoute Vidas, quelle est votre question?
Oui, j'avais à dire par rapport au sujet du jour, parce que nous voyons le secteur de la pédiatrie est beaucoup négligé en RDC. D'après les constats que nous faisons, il faut qu'il y ait une implication du ministère de la Santé publique pour qu'il puisse promouvoir vraiment la promotion dans ce secteur. Parce que sur les années de la République, partout, en tout cas ce secteur-là est foutu, il est négligé seulement à Kinshasa où il y a les centres pédiatriques qui n'est même pas bien équipé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, je voulais un peu aborder à l'invité jusqu'à quand on va relever vraiment la situation pédiatrique au Congo. Parce que les enfants subissent des cas vraiment, si vous n'êtes pas né dans une famille riche, vous ne pouvez pas bénéficier en tout cas les soins de santé conformes. Alors c'est pour cela du jour le jour, on est en train de perdre les enfants. Et cela ne dit pas à des maladies, mais c'est dû à la prise en charge.
Et oui, aussi, oui, Vedas, allez-y, vous voulez dire encore, ajouter quelque chose encore?
Oui, je voulais ajouter quelque chose.
Allez-y rapidement.
Ça, Congolais doit se prendre en charge dans le sens...
Voilà, vous l'avez déjà dit, Vedas, on a compris, pour vous, il faut l'implication du ministère de la Santé, Vegas. Vous allez encore répéter ce que vous avez déjà dit. Merci, Vedas, d'avoir appelé du Kananga. Freddy, vous êtes en Bougimaï. Bonjour, Freddy.
Bonjour la radio Capri, bonjour à de nombreux auditeurs.
On vous écoute Freddy. Freddy n'est plus en ligne, il me semble. On va aller en Bandaka pour retrouver Platini Mbombo. Platini, vous êtes en Bandaka. Bonjour Platini.
Bonjour Marcel, bonjour les victimes, ainsi que bonjour à tous les auditeurs de la radio Capri. C'est Platini Mbombo, je suis en Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Ma préoccupation est que je dois quand même vous remercier à la thématique de l'émission d'aujourd'hui, c'est comment améliorer la prise en charge des maladies aux enfants, tout ça. Alors, il se pose un problème ici dans nos locaux, hôpitaux, entre autres les centres de santé, hôpital général de référence, où s'il y a un enfant est malade, soit la maman, soit la famille n'est pas à mesure d'acheter les médicaments pour l'enfant. Et souvent se pose un problème quand l'enfant arrive à l'hôpital, hein, les médecins ou soit l'infirmière commence à demander maman, avant de faire soigner votre enfant, il faut donner au tas. Alors, parce que nous à l'époque, quand on a suivi, comme je suis ici à Manaka, on vient de parcourir dans l'épidémie Ebola ici chez nous à l'Équateur. Le ministre de la Santé publique, Dr. Oli Lunga, a vu demander et déclarer aussi que les prises en charge, hein, c'est gratuit dans nos différents hôpitaux, ici dans la ville de Manaka et pour le reste de l'Équateur. Mais l'État ne se parvenait même pas. Quand on arrive à l'hôpital, il se pose un problème. Deux, trois jours, la femme elle meurt comme ça à cause d'un médicament. Alors moi, je veux quand même poser une question. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour éviter cette fléau? Parce que ça fait à tout moment et ça répète. Et nos enfants meurent à tout moment. J'ai bien de vous remercier.
Merci Platini Bombo depuis Mbandaka. On me fait signe que c'est bon maintenant pour la ligne de Freddy. Hein. La ligne a été coupée tout à l'heure. Freddy qui nous appelait de Mbujimaï. Freddy, vous êtes en ligne?
Ah oui, je suis en ligne, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Freddy.
Oui, ma question est la suivante.
Ah, Freddy, désolé pour Freddy, hein, donc là, c'est vraiment... On peut plus revenir à Freddy, il y a un problème, je pense bien, avec Freddy, depuis Mbujimaï. Alors, docteur, vous avez suivi, il y a Vidas, hein, qui est revenu sur l'implication du ministère de la Santé publique. Vous avez essayé d'évoquer cela, c'est tout à fait normal que les ministères puissent s'impliquer davantage pour améliorer les conditions des prises en charge médicales dans le secteur de la pédiatrie en RDC. Mais vous avez suivi Platini qui a évoqué plutôt autre chose qui est liée aussi au comportement du personnel médical, notamment des infirmiers, qui des fois il a évoqué le fait que vous arrivez avec un enfant malade, mais vous n'avez pas de l'argent, on vous exige avant de soigner votre enfant, il faut de l'argent et parfois il y a de cas urgents et l'enfant peut mourir comme ça simplement parce que le personnel médical n'a pas su faire à temps d'abord son travail avant de réclamer l'argent. Après, c'est des choses qu'on déplore aussi dans nos structures médicales.
Alors, ce que les gens doivent savoir d'abord, c'est que la santé a un prix, les soins médicaux ont un prix, les médicaments, ça s'achète. Le sang, ça s'achète, l'oxygène, tout le matériel dont on a parlé ici, quand on en a, il faut pouvoir en assurer la maintenance et les réparations. Ça, c'est un fait. Mais nous savons que c'est un problème. Alors, ce que nous avons fait, par exemple, à l'hôpital pédiatrique de Kalembele, c'est que nous avons ce que nous appelons une trousse d'urgence dans des services sensibles, comme en soins intensifs, en néonatologie et en chirurgie, à la salle d'urgence. On a certains médicaments qui souvent ne coûtent pas très cher, mais qu'on a mis là parce qu'un enfant qui convulse, qui fait de la fièvre, qui vomit, on ne va pas demander aux parents d'aller courir d'abord pour aller acheter.
Le médicament, oui.
On a ça dans le service, on donne, on demande aux parents d'acheter pour remplacer, mais il est vrai que beaucoup n'achètent pas pour remplacer. Et donc nous-mêmes, quand de temps en temps on a des donateurs qui viennent, souvent, ce sont des individus ou des médicaments que le gouvernement nous donne aussi en don. En ce moment-là, on les garde pour ces cas-là. Mais il y a aussi autre chose. Les parents aussi ont leur part. Les parents doivent aussi être éduqués. Quand un enfant est un être fragile, parce qu'il y a un auditeur qui avait demandé pourquoi c'est souvent les enfants
qui tombent malades. Oui.
Les enfants n'ont pas encore assez d'anticorps pour pouvoir se défendre contre tous les microbes qui circulent. Et donc, quand un enfant commence à être malade, il ne faut pas se dire « je vais observer 2-3 jours » parce qu'entre-temps, ça s'aggrave. Surtout quand c'est la malaria, l'enfant peut perdre du sang parce que les microbes de la malaria tuent les globules rouges. Et quand ils voient que l'enfant est complètement fatigué en ce moment-là, ils emmènent, mais l'enfant est déjà dans un état qui devient plus grave et qui va demander peut-être beaucoup plus d'argent que si on l'avait emmené dès le départ ou un médicament simple et qui coûte moins cher aurait suffi. Et donc les parents doivent aussi être éduqués à savoir qu'on ne garde pas un enfant qui commence à être malade à la maison. Il faut l'emmener vite au centre de santé.
Alors dites-nous, docteur Akil, l'idéal, c'est une question de curiosité, hein. Est-ce que l'idéal serait que dans chacune de provinces, il y a un hôpital général de référence avec un service de pédiatrie. Et puis au niveau du pays, un grand hôpital pédiatrique où peuvent être référés tous les cas. Serait ça l'idéal, ou d'avoir une structure pédiatrique dans chacune des provinces?
Oui, je crois que ce serait ça l'idéal, d'avoir un hôpital pédiatrique dans chaque chef-lieu de région, oui. Parce que là, les gens auront accès plus facilement. Et puis, pour la référence de troisième niveau, un hôpital universitaire bien équipé, avec des gens très bien formés, pour pouvoir prendre en charge tous les cas compliqués. On a Lubumbashi, on a Kinshasa, on a Kisangani, on a des hôpitaux universitaires avec les professeurs et tout pour la référence de troisième niveau. Mais si on pouvait le mettre aussi dans d'autres provinces, mais bon, je crois que ça arrivera. Mais ce que je peux aussi dire par rapport aux gens qui appellent des régions, il nous arrive parfois d'être appelés par des médecins qui sont à l'intérieur du pays.
Oui.
Quand ils ont nos numéros, qui sont butés à certains problèmes, ils appellent. Et nous leur disons ce qu'il faut faire ou quels médicaments il faut acheter. Ça, c'est... Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut aussi... Il y a certains réseaux des médecins où ils peuvent poser leurs problèmes et où on peut leur donner des conseils sur ce qu'il faut qu'ils fassent pour des cas qui les dépassent un peu.
Voilà. Jules Kazadi nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Jules.
Bonjour, Monsieur Martel. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Jules, quelle est votre question par rapport à ces sujets? Comment améliorer la prise en charge médicale en pédiatrie en RDC?
Oui, il nous faut en tout cas, c'est un problème qui est général, M. Marcel, parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons notre hôpital, ici à Lubumbashi, nous avons un grand hôpital comme Janson Sendwe, qui, là où cet hôpital. Là où les Sud-Africains, les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens venaient se faire soigner ici. Mais pour l'instant, après l'indépendance, c'est aller regarder cet hôpital. Donc, même s'il est en train d'être perfectionné, mais c'est terrible. Donc, pour aller se faire amener les enfants, je crois, dans des hôpitaux fiables, il faut aller dans des privés.
Oui.
Ces privés-là, ça coûte très cher, énormément cher, monsieur Marcel. Donc, même si madame est en train de dire que non, voilà, l'État est en train de donner les histoires, mais il y a un problème dans notre pays, le suivi. Madame a dit là, l'appareil ne fonctionne plus. Mais on a payé cet appareil cher, plus de $20.
20 000.
On a plus, plus de $20 000, mais. Il n'y a pas la politique d'entretien. Voilà, la machine est bloquée. Bon, le gouvernement va amener d'autres. Donc, ça se passe partout. Donc, on ne comprend pas, M. Marcel, si nous utilisons quelle politique dans ce pays, si nous allons continuer comme ça. Donc, il n'y a pas la politique de renouvellement. Donc, nous sommes bloqués. Voilà, monsieur
Merci.
Merci en tout cas.
Oui, merci à vous aussi, Jules, d'avoir appelé de Lubumbashi. Les derniers auditeurs en ligne et du Kananga, c'est Adolphe Luboya. Bonjour, Adolphe.
Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Ok, j'ai une question qui a deux volets que je voulais poser à la dame invitée. Bon, par rapport aux hôpitaux, bien au centre de santé qui ne construisent pas des pédiatres. Alors, si on amène un enfant ou qui n'a pas un pédiatre, quelles seront les conséquences avec le traitement de cet enfant-là? Le deuxième volet, nous, en tant que parents, le docteur pédiatre qui est sur le plateau peut nous dire les premiers signes ou bien les signes de danger qui peuvent nous stimuler d'amener l'enfant dans un centre de santé ou bien dans un hôpital. C'est ça, M. le Président.
Merci, Adolphe Luboya, depuis Kananga. Je reviens à vous, docteur Katharina Kelly. Vous êtes directrice de l'hôpital pédiatrie de Kalembe-Lembe. Vous êtes notre invitée pour parler de cette question sur comment améliorer la prise en charge médicale en pédiatrie. Vous avez suivi Adolphe et également à Jules Kazadi, qui est appelé depuis Lubumbashi, qui a reconnu que le problème est réel partout, même il a parlé au niveau de Lubumbashi, hein, qui connaît le même problème au niveau de grandes structures médicales qui sont dans le pays. Il a même évoqué un problème des suivis. Il a parlé, par exemple, de ce que vous avez parlé de votre appareil d'imagerie médicale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est arrivé que l'appareil tombe en panne? Il n'y avait pas une maintenance? Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, maintenant, il faut absolument qu'il y ait un appareil d'imagerie médicale?
Bon, les appareils qui tombent en panne, c'est tout à fait normal. Hein, oui. Parce qu'il y a parfois des problèmes d'électricité aussi. Il peut y avoir des problèmes d'utilisation. Mais le grand problème que nous avons, c'est que il n'y a pas des gens, il n'y a pas beaucoup de gens formés pour réparer les appareils médicaux. Ça, c'est un fait. Il y a un problème de pièces de rechange aussi. C'est des appareils qui ne sont pas fabriqués chez nous. C'est des appareils qui viennent d'ailleurs. Et souvent, quand ils viennent, il n'y a pas les services de suivi, enfin de maintenance ou de suivi pour ces appareils-là. Et donc, il y a, je crois que c'est à l'ISTA qu'on forme des gens pour la maintenance des appareils médicaux. Mais bon, il faut aussi qu'ils se qualifient vraiment pour...
Qu'ils soient des personnes bien qualifiées pour le faire.
Pour le faire, oui.
Mais vous avez suivi enfin, également Adolphe qui a parlé, vous en avez parlé, mais vous pouvez bien répondre encore Adolphe, si vous êtes dans des coins où il n'y a pas de pédiatre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quels sont les signes d'alarme pour les parents lorsqu'un enfant est malade? Des signes qu'il faut absolument acheminer l'enfant à l'hôpital.
Alors, je vais commencer par cette dernière question. Déjà, les parents... C'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants.
Oui.
Ils savent quand son enfant est bien, il joue et tout ça. Et quand cet enfant devient un peu fatigué, refuse de manger et tout ça, c'est déjà un signe d'alarme. Mais par rapport aux trois grandes maladies dont on a parlé ici chez les enfants, un enfant qui fait de la fièvre, un enfant qui vomit, qui a la diarrhée, un enfant qui respire mal, un enfant qui est fatigué, qui refuse de manger... Ce sont des signes d'alarme qui doivent faire dire aux parents que là, il faut que je l'emmène, c'est quelqu'un qui peut m'apporter la solution. Et je redis encore ici... Lorsqu'il n'y a pas de pédiatre, dans les centres de santé, c'est des gens qui ont été formés pour la prise en charge. C'est vrai que c'est des gens qui doivent être remis à niveau régulièrement. Il y a des documents, même de l'OMS, où on détaille comment prendre en charge telle ou telle situation. Au niveau du ministère, on a fait des réunions pour faire des protocoles de prise en charge pour tout le pays. On avait réuni un peu des médecins de tous les secteurs venant d'à peu près partout dans le pays. Et donc, c'est des documents qui existent, mais qui doivent être diffusés et les gens doivent les consulter.
Docteur Catherine Akil, avant de nous séparer, je l'avais dit en début de cette émission, vous avez cette opération de bienfaisance que vous organisez à l'occasion des 10 ans du service de pédiatrie du Kalembelembe, au service de chirurgie de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Alors voilà, un appel aux donateurs, rapidement.
Oui, en tout cas là, nous en profitons parce qu'on a vu déjà hier beaucoup d'enfants qui sont arrivés et nous, on a prévu pour le moment d'opérer 100 enfants. Déjà, on n'a pas encore assez pour pouvoir opérer ces 100 enfants-là, mais on risque d'avoir beaucoup plus. On ne pourra pas tout faire en même temps, mais je lance un appel. Je crois que faire du bien, ça fait du bien aussi à la personne qui le fait. Et donc, il faut aider nos enfants à se faire soigner, ceux qui ont les moyens. Ils peuvent passer à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, à notre comptabilité, et donner leurs dons.
Et un numéro d'appel pour ceux qui ne sont pas ici sur place à Kinshasa?
Je donne mon numéro déjà.
Par rapport à cette opération de bienfaisance rapidement, oui.
081 52 52 161.
081-52-52-161 pour ceux qui veulent bien apporter leur aide à cette opération de bienfaisance avec l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Pour ceux qui sont à Kinshasa, il n'y a pas de problème, vous passez, c'est sur quelle avenue encore?
C'est l'avenue Kalembelembe à la commune de Lingwala, dans la zone de santé de Lingwala aussi.
Merci docteur Catherine Akele. Je rappelle, vous êtes directrice de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Vous étiez notre invitée pour parler de comment améliorer la prise en charge médicale en pédiatrie ici en République démocratique du Congo. C'était un réel plaisir de vous avoir dans ces studios.
Merci beaucoup, monsieur Marseille.